cette pensée sociale de l'Église, je crois qu'elle s'est vraiment mise en route avec cette idée qu'au nom de l'Évangile, il fallait prendre au sérieux l'exigence de justice dans la société. Ça n'est pas évidemment l'apanage, encore une fois, des chrétiens que de tenir à l'exigence de justice. Mais il y a des motifs tout particuliers de le faire. Et quand on parle de justice sociale, évidemment, c'est le lieu par excellence de vérification de cette exigence, même si ça n'est pas toujours facile à discerner. Et évidemment, cette justice elle-même doit faire l'objet d'une réflexion, puisque là aussi, on peut avoir plusieurs modèles ou approches de la justice. Donc, il ne s'agit pas forcément de prêcher, si j'ose l'expression, vu que c'est les chrétiens qui réfléchissent, à une forme d'égalitarisme simpliste, mais l'exigence de justice, c'est une exigence qui fait sens et qui, par parenthèse, existe dans une tradition ancienne de l'Église. Il faut savoir que la réflexion sur la justice, pas au sens moderne de la justice sociale, mais on a des sources sérieuses qui ont été réinterprétées dans la pensée de l'Église contemporaine, qui remontent à saint Thomas d'Aquin, ce qui n'est quand même pas tout à fait rien. Donc on n'est pas démuni dans une pensée sur la justice que l'on peut mettre en avant pour, je dirais, vérifier dans quelle mesure cette justice est honorée dans le champ des activités économiques. Troisième principe important, celui de, ou troisième piste, la supériorité de l'être sur l'avoir. Voilà, il faut tenir que cette expression qui peut sembler un peu simple, qui peut faire sourire certains, a du sens. Parce que si on ne tient pas cette piste, il n'y a pas 36 échappatoires, me semble-t-il, en matière d'économie. On peut, à ce moment-là, si on ne prend pas au sérieux cette formule, tomber dans l'égoïsme, dans le cynisme. Donc voilà, l'enjeu, c'est, quand on dit cela, c'est d'essayer de garder intacte une certaine force d'indignation qui fait refuser la fatalité. La quatrième grande piste qui me semble pertinente et qu'évoquait Hugues Puel dans son travail des années 90, c'est la recherche du bien commun. Notez que ce principe, et j'y reviendrai à la fin de l'intervention, est pas mal revisité aujourd'hui. Oui, la recherche du bien commun, c'est en quelque sorte quand même la clé de voûte de la réflexion en matière de morale sociale et de morale socio-économique, malgré la difficulté effectivement que peut faire ce concept. Car ce qui est difficile et la responsabilité pour nous chrétiens, c'est l'horizon de ce bien commun. Si vous êtes dans une entreprise, vous arrivez assez bien à cerner ce qu'est le bien commun de cette entreprise dans un contexte où il faut effectivement se protéger globalement, penser au bien de ce collectif qui est une entreprise. On peut encore le comprendre au niveau d'une collectivité locale. On comprend au niveau d'un État-nation. Bon, si on est bien évolué, on s'accorde à essayer de le penser au niveau de l'Europe. Mais voilà, quand on essaie de penser le bien commun au-delà, hein, quand on réfléchit aux questions économiques vraiment en prenant au sérieux la dimension mondiale, on ne peut pas évidemment borner l'horizon du bien commun à celui de l'Europe. Et là, effectivement, c'est une responsabilité que nous, chrétiens, nous avons, eh bien, voilà, de veiller à ce que cette perspective, cette recherche du bien commun, non seulement soit effective, mais qu'elle embrasse l'horizon du monde entier. Ce qui n'est, là aussi, tout sauf évident. La cinquième piste que je voulais évoquer à la suite de Puel et qui me semble importante, voilà, c'est cette préférence pour les pauvres. Voilà, vous allez me dire aussi, principe qui a été bien revisité depuis, qui tient beaucoup à cœur pour le pape François. On le redira aussi tout à l'heure. Mais ce qui est important, c'est que cette préférence pour les pauvres n'est pas une option, ça n'est pas une matière à option. C'est un ressort qui donne une coloration particulière à la justice, et il y a derrière cette idée que notre foi ne peut se satisfaire que certains soient exclus. Et donc, tout regard porté sur des options, des choix, des pratiques économiques doit toujours mettre dans l'équation de cette évaluation, de ce questionnement, la question de la place qui est réservée au final aux plus pauvres dans ce qui est évalué. Voilà déjà ce que je voulais vous dire donc dans cette première partie sur que signifie interroger l'économie selon ces trois plans, et à très grand trait, j'en suis conscient, quand on essaye de prendre au sérieux la richesse de ce qu'il y a derrière la notion d'économie et les différentes questions qu'on peut faire selon les différents plans, les trois plans que j'ai évoqués. Je voudrais donc maintenant venir à la deuxième partie de mon propos, qui est voilà, d'essayer de ressaisir là aussi à grand trait les fondements qui peuvent être les nôtres pour un questionnement éthique de l'économie. J'ai déjà distillé quelques éléments, mais je voudrais voilà, essayer de ressaisir cela. Donc il est vrai que la pensée chrétienne depuis la Bible et dans la tradition de l'Église depuis ses commencements a toujours entretenu ce qu'on peut appeler un rapport éthique à l'économie. L'Église, j'ai mis quelques points marquants sur ce transparent, l'Église née dans la tradition juive, vous le savez, a d'abord accueilli depuis le début eh bien, les injonctions de Dieu au peuple d'Israël, du moins ce que ce peuple a reçu comme injonction touchant la vie économique et sociale. Et vous connaissez tous ce programme du livre du Deutéronome, chapitre 15, verset 4, « Il n'y aura pas de pauvres chez toi ». Voilà, qui a été repris justement souvent dans des textes, dans des formules. « Il n'y aura pas de pauvres chez toi ». Autre exemple, enfin c'est pas un autre exemple, c'est une illustration, je dirais, légale de cette affaire, la loi dite du jubilé, qui établit de son côté qu'aucune propriété n'est absolue. Donc ça c'est important. Effectivement, la pensée sociale de l'Église connaît, au nom du droit naturel, la légitimité du droit de propriété. Mais elle connaît aussi, depuis cette tradition, le fait que d'une façon ou d'une autre, l'absolutisation de la propriété n'est pas possible. Celle-ci n'est jamais que relative. Tous les biens faisant retour périodiquement à leur détenteur originel, à savoir au Créateur. Et la distribution initiale étant supposée équitable ou à rééquilibrer. On retrouve ici un principe biblique important qui nourrit d'ailleurs la pensée sociale Église, qui est eh bien, cette destination universelle des biens. Cette idée aussi que Dieu même est le maître des biens en définitive. Alors vous le savez, les prophètes d'Israël ont insisté constamment, d'autre part, sur le respect de la justice. Ils ont lutté contre les exactions, les accaparements. Ils ont demandé un traitement fraternel pour l'étranger, pour la veuve et pour le pauvre. Vous connaissez ce triptyque, je dirais, des précaires dans la société de l'époque. Voilà, tout cela est un capital initial important pour la pensée chrétienne et l'Église. Jésus, lui, n'a pas directement parlé d'organisation de la vie économique et sociale, mais il a fortement dénoncé l'avidité et la forme d'idolâtrie qui pouvait presque s'y rattacher. Voilà, vous connaissez tous cette parabole de l'homme insensé qui a immensément amassé et à qui Dieu dit « Voilà, insensé, cette nuit même, on te redemande ta vie et ce que tu as préparé, qui donc l'aura ?» Voilà, donc nous le savons, Jésus a fondamentalement mis en garde contre l'excès du souci des biens et leur acquisition. Et il a aussi essayé de promouvoir un mode détaché du rapport aux choses. Ne vous inquiétez pas, vous connaissez aussi ces paroles, pour votre vie, de ce que vous mangerez, et pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. Observez les lys, ils le filent, ils le tissent. Il y a aussi toute cette thématique de l'argent trompeur, et qui trompe souvent l'homme, selon Jésus. L'Église, ensuite, s'est constituer dès ses débuts en communauté de partage. Ça, c'est un élément qui est important. Vous savez ce qu'on appelle dans les actes des apôtres, ces fameux sommaires où on dit voilà qu'ils mettaient tout en commun, non seulement dans leur vie de prière et de célébration, mais il n'y a pas de raison de douter, et c'est écrit explicitement, la mise en commun de leurs biens. Non pas que cet été, c'est un point qui a été discuté pas mal par les exégètes, une pratique généralisée de forme communisme intégral, mais c'est une pratique qui a été réelle. Et on doit toujours s'interroger sur le fait qu'il n'y a qu'une minorité prophétique dans l'Église, représentée par le monachisme, qui a pris ces options de partage radical du bien et de refus d'une propriété privée pour soi-même. Parce qu'il n'est dit nulle part qu'il faut qu'il y ait eu deux églises, une église d'un certain modèle devant disparaître pour céder la place à une autre différente. Alors vous allez me dire, les choses ont évolué parce que les premiers chrétiens, ils attendaient l'immanence de la parousie. Après, les choses ont commencé à durer, donc il a fallu un petit peu commencer à s'organiser. Voilà. Mais il n'y a pas que ça, sans doute. Enfin, on pourra en parler. Dans les siècles suivants, eh bien, l'Église a rencontré, oui, la monnaie, le crédit, un jour la banque, l'entreprise, l'assurance. Et très tôt, elle a dénoncé des accumulations indues. Il n'a pas fallu simplement attendre la fin du XIXe siècle et le début de ce qu'on appelle techniquement la doctrine sociale de l'Église pour qu'il y ait des réactions. Déjà, les pères de l'Église, dans les premiers siècles, eh bien, voilà, sont venus en réaction contre un certain nombre de pratiques. Il y a des pères de l'Église éminents comme Jean Chrysostome, qui est archevêque de Constantinople, la grande capitale de l'époque, qui ont vraiment des propos très sévères contre l'accumulation de richesses indues et l'injustice qui régnait dans les sociétés de l'époque. Au Moyen-Âge et à la Renaissance, on a lutté contre toute espèce de tricherie et de vol. Et on a fait des traités réellement. Et vous savez ou vous ne savez pas que c'est très intéressant de voir que les premiers traités de réflexion économique, et ce sont les historiens d'économie eux-mêmes qui le disent, ont été inspirés par, on va dire, des savants liés à l'Église. Donc voilà, on a toute une trace de, et qui est aussi un patrimoine d'une pensée de l'Église qui se confronte aux réalités de l'économie, qui se différencient et qui deviennent de plus en plus riches et variées au fur et à mesure des siècles. Et donc c'est sur ce fond de continuité que je l'ai fait qu'effleurer ici, continuité non sans éclipse d'ailleurs, que l'Église en est venue effectivement à développer un enseignement social plus systématique. Enseignement intégrant la question d'un rapport éthique à l'argent, donc dans cette seconde moitié du XIXe siècle, dans la foulée, cet enseignement n'est pas tombé du ciel, d'une réflexion des chrétiens eux-mêmes, des catholiques, avec ce qu'on appelait le catholicisme social. Et vous savez sans doute, à l'époque, une des questions majeures du débat entre catholiques sociaux était justement cette question du juste salaire. Fallait-il simplement que le salaire pour les exigences de la justice soit conforme à ce que prévoyait le contrat, ou fallait-il dire que pour que la justice soit honorée, il fallait que ce salaire soit suffisant pour permettre, eh bien, à l'ouvrier de subvenir à ses besoins et à ceux dont il avait la charge? Eh bien, ça sera effectivement le pas important de cette réflexion. Je fais ici référence à la première encyclique Rerum Novarum, voilà, que de poser fermement les exigences de la justice dans le champ de l'économie avec la question qu'on appelait à l'époque la question ouvrière, en disant que, par exemple, sur cette question des salaires, eh bien, il fallait, pour que les exigences de la justice soient respectées au nom de l'Évangile, eh bien, que ces salaires soient suffisants pour que les salariés, les ouvriers, les travailleurs puissent vivre décemment. Et donc c'est au nom de l'Évangile que dans tout cet enseignement, la doctrine sociale de l'Église va chercher en permanence à interroger les pratiques économiques au nom des principes de la justice sociale, qu'elle partage certes avec d'autres, mais encore une fois pour des motifs qui lui sont bien propres. Alors, avec, je passe maintenant, on est dans les années 60, autour du Concile et au-delà, ce qui va être intéressant autour des points de repère que l'Église va se donner, ou la pensée sociale chrétienne va se donner sur l'économie, c'est que jusque-là, on était très concentré quand même sur le contexte des questions économiques posées en Europe ou dans l'Occident plus généralement. Eh bien, avec Jean XXIII, puis surtout Paul VI, eh bien, c'est notamment au nom de ce principe théologique de la destination universelle des biens que j'évoquais tout à l'heure, eh bien, que cette doctrine sociale de l'Église va questionner les figures du développement économique aux horizons de la planète. Elle est questionnée pour constater que le développement tel qu'il fonctionnait était en fait un mal développement. Et donc la question sociale posée par l'économie ne sera plus la question ouvrière, mais la question du développement dorénavant. Pour voir d'autres sources de points de repère, avec Jean-Paul II, c'est assez significatif là. C'est au nom d'une anthropologie chrétienne qu'il développe dans ses encycliques, donc sur un certain sens de l'homme et de son activité, de son vivre ensemble, que Jean-Paul II va, par exemple, interroger des réalités aussi tangibles que le travail, puisque vous savez qu'il consacrera une encyclique complète sur le sujet, le travail et la production, mais aussi ses structures, l'entreprise elle-même, mais aussi encore le matérialisme consumériste qui sera tout à fait questionné et qui, par parenthèse, questionnera chacun en tant qu'acteur économique. Il y a aussi ce lieu de questionnement et ces points de repère spécifiques qui ont été cherchés concernant la finance. Alors certains on dit parfois qu'en matière de réflexion économique sur la finance, l'Église, comme elle sait le faire sur un certain nombre de sujets, avait un peu un métro de retard. Bon, c'est pas si vrai que ça si on est un tout petit peu attentif. Car sur le développement de la sphère financière, en lien avec une réflexion sur les exigences éthiques, on a un premier texte important en 1994. Et si vous remettez, pour la plupart, dans cette époque, vous étiez quand même, il y a quelques jeunes, la plupart vous rappelez combien des années 90 encore, on n'était pas dans la situation d'aujourd'hui. Donc au milieu des années 90, il y a eu, sur demande du Conseil pontifical Justice et Paix, et on avait fait travailler, faisant un petit cocorico, deux hauts fonctionnaires français, Antoine de Salins et François Villeroy de Gallo. Donc le titre est très technique, mais il montre bien le souci. Le développement moderne des activités financières au regard des exigences éthiques du christianisme. Donc texte de 1994. Eh bien, les appels ont continué, et les appels les plus récents en vue d'un encadrement des pratiques financières proviennent du même, à ma connaissance, je ne crois pas qu'il y en ait eu depuis d'aussi précis, du Conseil pontifical Justice et Paix, et là c'est ce que je vous ai mis sur ce transparent, en 2011. Il s'agit, on pourrait dire, d'une note qui invite à sortir de l'illusion financière. Évidemment, 2011, là, elle est très, de façon très contextuelle, liée à la crise, la dernière grande crise qui a démarré en 2008 et dont on n'est toujours pas réellement sorti. Quand je parle, par parenthèse, d'illusion financière, je fais référence à un très bon livre sur le sujet de Gaël Giraud, qui est cette fois-ci un économiste chrétien, jésuite, qui a comme sous-titre « Pourquoi les chrétiens ne peuvent pas se taire ?» Voilà, l'illusion financière, pourquoi les chrétiens ne peuvent pas se taire. Livre de 2012. J'en viens donc à ce texte-là que vous avez sous les yeux. Donc, autre type technique de cette note, hein, qui est d'ailleurs accessible sur Internet, hein, si vous êtes curieux. Elle s'intitule « Pour une réforme du système financier et monétaire international » dans la perspective d'une autorité publique à compétence universelle. Le titre est long, mais il veut assez bien dire ce qu'il veut dire. J'en retiens les quelques lignes que je vous ai mises sous les yeux pour que vous puissiez juger sur pièce. Dans un tel processus, comprenez celui, effectivement, d'un système financier qui est devenu incontrôlable. Il est nécessaire de retrouver la primauté du spirituel et de l'éthique, et en même temps de la politique, responsable du bien commun. Ça, c'est un enseignement constant de la pensée sociale de l'Église. Le politique a comme légitimité de veiller à garantir le bien commun. Donc, le politique responsable du bien commun sur l'économie et la finance. Celles-ci doivent, au vu de leur responsabilité évidente envers la société, être ramenées dans les limites de leur vocation et de leur fonction réelle, y compris celles sociales, afin de donner vie à des marchés et des institutions financières qui soient véritablement au service de la personne, c'est-à-dire capables de répondre aux exigences du bien commun, et ça revient, et de la fraternité universelle, en transcendant toutes les formes de stagnation économique et de mercantilisme performatif. Si vous êtes intéressé par la note, elle n'est pas très très longue, je vous ai donné ici qu'un extrait. Pour être dans ses fondements pour un questionnement éthique de l'économie, j'en viens à l'actualité la plus récente, il faut évidemment se tourner vers la dernière encyclique sociale que nous avons connue, Caritas in Veritate, du pape Benoît XVI en 2009, hein, qui là aussi est marqué par l'actualité de la crise, même si ce n'était pas une encyclique sur la crise, et qui donc a cherché à présenter une actualisation de la doctrine sociale de l'Église dans ce monde affecté par la crise et les difficultés de la mondialisation. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur cette encyclique, mais ce qui a été beaucoup souligné, et je me permets de souligner encore une fois ici, c'est la réflexion originale qu'elle faisait sur le don et la gratuité. Notamment dans ce chapitre 3 qui traitait de fraternité, développement économique et société civile. Et en son numéro 36, ce texte, encore une fois, là, qui est disponible sur Internet, comme tous les textes, les encycliques sociales notamment, mais pas que, en son numéro 36, donc, le pape en vient à écrire que, je cite, « Dans les relations marchandes, le principe de gratuité et la logique du don, comme expression de la fraternité, peuvent et doivent trouver leur place à l'intérieur de l'activité économique normale. » Donc, ce qui est très intéressant dans cette encyclique, il le dit de plusieurs façons, c'est que il ne faut pas que dans l'économie on se satisfasse simplement, un peu comme vous n'êtes pas loin des Pyrénées, là vous avez des zones protégées, un peu comme on a des parcs naturels, voilà. Donc il y aurait des zones protégées de l'économie, on ferait de l'économie sociale et solidaire, là on essaierait d'être bien éthique. Et puis le reste, ça serait des non-lieux éthiques, et puis voilà. Et après on essaierait de récupérer la casse par ailleurs. Non, il est demandé qu'à l'intérieur de l'activité économique elle-même, on en vienne jusqu'à questionner l'idée de qu'est-ce que peut faire ce principe, de façon non évidente en termes de solution, je vous l'accorde, de la gratuité et de la logique du don comme expression de la fraternité. Évidemment, j'en viens au pape François qui, depuis le début de son pontificat, a montré par bien des prises de parole et des témoignages, même directs, l'option préférentielle pour les pauvres, non pas qu'il l'ait inventée, mais le fait que ce soit quand même quelque chose de tout à fait important pour lui, en lien avec son histoire. Au point de consacrer une bonne partie de son exhortation apostolique, Evangelii Gaudium, dont il dit par parenthèse que ça n'est pas un texte de plus de l'enseignement social de l'Église, mais enfin qu'il y a une touche quand même sacrément sociale, puisqu'il a un chapitre complet qui traite donc de la dimension sociale de l'évangélisation, ce qui est déjà pas mal, et un bon nombre de numéros regroupés sous le titre « L'intégration sociale des pauvres ». Donc on n'est même pas sur l'option préférentielle pour les pauvres, on est sur l'intégration sociale des pauvres. Donc ça fait référence à ce que disait notre ami en le citant tout à l'heure au début, cette idée que s'il n'y a pas intégration, eh bien il y a désintégration, il y a rejet. Et ça, on ne peut l'accepter. Alors pour honorer justement l'actualité la plus récente d'hier, vous avez tous regardé peut-être un petit peu ou écouté ce qui avait été dit. Moi je me suis dit, je vais regarder non pas ce que dit la bonne presse, je vous rassure, je lis la Croix, mais je me suis dit, tiens, quel dit le site Les Échos, bon site économique. Et sur le site, il y avait effectivement, ils ont retenu notamment ce qu'il a dit devant le Parlement européen, je cite, L'heure est venue de construire ensemble l'Europe qui tourne non pas autour de l'économie, mais autour de la sacralité de la personne humaine, des valeurs inaliénables. A-t-il ajouté, c'est ce que je trouve sur le site des Échos, plaidant pour que l'on abandonne, citation à nouveau, l'idée d'une Europe effrayée et repliée sur elle-même. Il a également dénoncé, relevait les Échos, la culture du déchet qu'on a évoqué tout à l'heure, et qu'il a déjà, expression qu'il a souvent employée, cette notion de déchet, à l'œuvre actuellement et qui risque de réduire la personne humaine à un simple engrenage. J'en viens à ma dernière partie qui sera brève parce qu'elle est conclusive. J'en ai vraiment pour 5 minutes. Je serai donc bref puisqu'il s'agit, il ne s'agit que d'évoquer, c'est le titre, ébaucher les traits d'une économie réellement au service de l'homme. Et je le ferai pour être cohérent avec l'idée selon laquelle eh bien, les chrétiens et l'Église elle-même ne sauraient proposer de solutions clés en main au titre de leur foi. Donc je serai un peu présomptueux de vouloir le faire ce soir. Je reprends ici d'abord 5 points d'attention souhaitables que j'emprunte à un collègue qui enseigne pour partie à Paris mais qui est aussi sur Poitiers, le père André Talbot, qui enseigne depuis des années aussi la pensée sociale de l'Église et qui a fait un petit livre en 2013 qui s'appelle « L'espérance aujourd'hui ». J'adapte un peu ce qu'il dit, mais en fait le plan de tout son ouvrage, c'est d'essayer de revisiter ce qui fait notre vie et notre monde à travers un certain nombre de points à honorer. Et ce que je propose, c'est qu'il y ait donc c'est de dire qu'une économie réellement au service de l'homme, puisque c'est bien de ça qu'il s'agit, doit aider les hommes à se reconnaître et à s'accepter. Alors je retiens les pas tous les points, mais 5 des points qu'évoque André Talvaux dans son ouvrage. Donc une économie qui nous aide à nous reconnaître, à nous accepter comme fragiles. Et qui pour cela nous aide à passer d'une forme de naïveté, qui serait un peu celle d'une toute puissance possible, ou d'une défiance qui détruit tout, à une confiance. Une économie aussi qui nous aide à nous reconnaître, à nous accepter comme solidaires. Et pour cela, doit nous aider à passer de la compétition à la sollicitude. Une économie aussi qui doit nous aider à nous reconnaître, à nous accepter comme engagés, et pour cela nous aider à passer du moi au nous. Une économie aussi qui nous aide à nous reconnaître, à accepter comme fraternels, et pour cela nous aide à passer de l'affrontement à la catégorie de l'alliance, catégorie évangélique et même biblique par excellence. Enfin, une économie qui nous aide à nous reconnaître comme serveurs, c'est le terme qu'il emploie, bon, j'aurais peut-être dit serviteur, mais c'est droit d'auteur, serveur, et pour cela, aider à passer de la récrimination à l'amour partagé. Voilà donc, déjà, si vous voulez, quelques traits de ce qu'une économie devrait, non pas devrait être, mais devrait permettre. Et pour vraiment terminer, je reviens sur donc cette notion traditionnelle, mais qui me semble vraiment décisive aujourd'hui, plus que jamais, celle du bien commun. Ça ne me semble pas qu'à moi, je suis frappé en regardant un petit peu ce qui s'écrit à droite, à gauche, ce qui se réfléchit, autour de cette réflexion sur non seulement le bien commun, mais les biens communs. Je pense que ce n'est pas un hasard. La crise économique qu'on connaît aujourd'hui, vous savez, est de façon liée une crise sociale et une crise écologique. Et on prend vraiment conscience de l'importance déjà des biens communs au pluriel. Et ce sont même les économistes qui travaillent sur cette notion des communs, des biens communs. Là-dessus, vous pourriez lire le livre de Giraud, qui écrit comme chrétien, mais aussi comme économiste. Donc il y a tout un travail qui est fait pour essayer de revisiter cette catégorie déjà des biens communs. Mais parler des biens communs au pluriel, ça suppose de se réinterroger sur cette notion traditionnelle de bien commun. Voilà, ce bien commun, en fait, a 2 sens quand on dit le bien commun. Le bien commun, c'est le bien qui est commun à tous, ou alors la communauté des biens. Eh bien, l'enseignement social de l'Église le définit ainsi, le bien commun, la vie bonne, la bonne vie humaine pour la multitude, c'est l'ensemble des conditions sociales permettant au groupe comme à chacun de leurs membres d'atteindre leur plein épanouissement. Et par rapport à ça, on peut rappeler les trois aspects que vous avez sous les yeux du bien commun, justement pour ne pas avoir une vision restrictive de la contribution de l'économie au bien commun. Certes, il y a l'aspect matériel. Le bien commun requiert un ensemble de biens, de richesses, la prospérité de l'unité économique composée d'hommes et de femmes. Et cette prospérité doit être le résultat du travail de tous. Mais il y a aussi un aspect, deuxième aspect, juridique. Le bien commun reconnaît et doit reconnaître les droits de tous à bénéficier justement de cette prospérité ou de ces biens. De tous, c'est-à-dire de tous les membres de chaque unité économique considérée. Donc dimension juridique du bien commun. Et enfin, cet aspect spirituel, qu'on n'attendrait peut-être pas spontanément, qui est que la participation de tous aux biens produits, produits et services, ne doit pas être considérée comme un simple partage. Le bien commun exige qu'elle soit le fruit d'une mise en relation réciproque de tous, d'une véritable communion fraternelle en vue de constituer une communauté. Il ne s'agit pas seulement de l'intérêt de chacun, ni même de l'intérêt général, au sens où cette expression évoque l'idée d'avantage purement matériel. Non, il s'agit d'une communion dans un bien supérieur d'ordre spirituel et humain. Pour donner un exemple, je ne sais plus quel auteur qui voilà, donnait un exemple bien concret, il disait, voilà, quand on dit, c'est bien beau de dire les équipements communs, l'éclairage public, tout ça, c'est important. Mais il disait, à quoi ça sert tout ça si ça ne permet pas de se retrouver le soir quand il fait nuit avec un éclairage public en train de prendre un petit pot ou de jouer aux boules, etc. C'est ça qui est important dans le bien commun. Ce n'est pas simplement de dire on a des biens communs, c'est qu'est-ce que ça permet de faire ensemble. Donc ce bien supérieur est la fin de chaque personne et celle de l'humanité tout entière. Et donc je termine vraiment là-dessus, cela entraîne une responsabilité particulière, encore une fois, pour chacun et pour nous tous, comme citoyens, politiquement. Et c'est ce que rappelle fort bien le Compendium de la doctrine sociale de l'Église, cet ouvrage qui est sorti, vous savez, en 2005 et qui a fait l'état des lieux de l'enseignement social de l'Église dans les paragraphes 168 à 168, 166 à 168. Enfin, vous n'avez pas tout là, mais ça se situe là. Je cite donc, « Les exigences du bien commun dérivent des conditions sociales de chaque époque et sont étroitement liées au respect de la promotion intégrale de la personne et de ses droits fondamentaux. Le bien commun engage tous les membres de la société. Aucun n'est exempt de collaborer selon ses propres capacités à la réalisation et développement de ce bien. Tous ont aussi le droit de bénéficier des conditions de vie sociale qui résultent de la recherche du bien commun. La responsabilité de poursuivre le bien commun revient non seulement aux individus, mais aussi à l'État, car le bien commun est la raison d'être de l'autorité politique. » On l'a déjà dit. Donc pour réaliser ce bien commun, les États sont investis d'une autorité qui ne peut s'exercer sans la justice, c'est le plan politique, et pour les citoyens que nous sommes, sans la charité, c'est le plan de la société civile. Vous voyez, c'est donc une responsabilité pour tous autour de l'économie qui est et qui sera ce qu'en feront les hommes. Je vous remercie de votre attention.
Très riche exposé à remis en place, à mis en perspective tout ce qu'on a écouté lors des trois dernières conférences.